Nous avons un Dieu de surprise. Nous avons un Dieu qui agit et qui agit comme il le veut, lui. Et non pas comme nous pouvons l'organiser. Ce matin, nous avons vécu des moments particuliers, oui. Mais croyons que c'est Dieu qui a permis cela pour que nous aussi, nous soyons édifiés. Pas dans la crainte, pas dans la peur, mais dans la confiance en ce grand Dieu que nous connaissons et que nous aimons. Et ça, je crois que c'est important, de cette dimension que nous devons avoir les uns et les autres, de faire confiance à Dieu dans tous les événements qui se passent. Il y en a un qui a fui, Jonas, quand Dieu lui a demandé d'aller à Ninive, qui était un peuple terrible, de leur annoncer qu'ils avaient à se repentir, à prendre le sac et la cendre et à reconnaître que Dieu est tout-puissant. Il a pris la fuite. Il a refusé ses responsabilités, mais Dieu l'a rattrapé. Nous aussi, il nous rattrape. Et il veut que ce matin, nous puissions être conscients de cela, que nous ne pouvons pas fuir nos responsabilités de chrétiens. Notre témoignage est quelque chose d'essentiel et important aujourd'hui dans le monde que nous vivons. C'est encore plus qu'il y a 2000 ans. Nous avons été ces témoins de Jésus-Christ dans ce monde difficile et dur où l'influence de l'adversaire est énorme. Ah, il est le prince des ténèbres. Il est celui qui a voulu s'assujettir à la terre. Mais le Seigneur Tout-Puissant, notre Dieu, et cette majesté que nous disions tout à l'heure, qui règne. Et on a commencé ce culte d'une façon particulière en chantant un chant, hein, rappelez, que la paix. Et dans l'épître aux Philippiens, beaucoup d'épîtres d'ailleurs commencent toujours par ce thème-là. Dans l'épître aux Philippiens, chapitre 1, Paul et Timothée qui écrivent à cette église et qui commencent par des phrases qui sont importantes. Le verset 1, simplement. Pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite à avoir vos Bibles et puis à prendre des notes même. Vous savez, vous ne me voyez pas, mais tous les dimanches, moi je prends des notes, j'ai un résumé de tous les messages depuis des années. Hein. De temps en temps, je peux piocher dedans. Hein. Non. Mais ça m'édifie parce que ces notes qui sont là, c'est la marque de ce que Dieu a pu dire pendant des années dans l'Église. Oh, il y a souvent des répétitions. Il y a certains, peut-être, d'entre nous qui peuvent avoir des dadas. Et chaque fois qu'ils font un message, non, je ne vais pas dire un dada. Quelque chose qui leur touche personnellement, pour lesquels ils sont amenés à parler au moment opportun. Dans cet épître de Philippiens, le premier chapitre, donc le verset 1, dit ceci et 2, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Je dirais, je ne vais pas dire pour moi, je vous parle à vous en disant, je m'adresse à vous tous, qui sont aux évêques et aux diacres, donc tous les saints, tous les membres, tous les responsables, ils sont concernés. Que la grâce et la paix vous soit donné de la part de Jésus-Christ, de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données ce matin, à tous et à toutes. Que nous ne puissions pas ressortir de ce lieu sans avoir été conscients de cette grâce que Dieu nous fait et de cette paix qu'il veut mettre dans nos cœurs, dans les tourments qui peuvent être là aujourd'hui, dans nos vies à chacun et à chacune. On ne voit pas tout. Un visage, c'est un visage. Il ne dit pas toujours la vérité. Notre visage n'est pas toujours un visage où c'est le vrai qui ressort. On est toujours, alors ça va, oui ça va. Et certains disent, par la grâce de Dieu, ça va. Oui. Et peut-être ça ne va pas du tout. Parce que si on approfondit, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et que dans la vie de certaines personnes, il n'y a qu'une façade. Et elle a besoin d'être, en somme, enlever le crépi qui est dessus pour qu'on puisse voir les bonnes pierres. Vous savez, il y a des œuvres d'art qui ont été plâtrées. On a caché des œuvres magnifiques sous une couche de plâtre parce que ça nous gênait, on voulait l'effacer. Puis un jour, quelqu'un a eu l'idée de prendre un marteau et de frapper. Et ce qui était derrière est apparu. Et c'est ce que fait Dieu aujourd'hui. Il frappe avec son marteau. Et son marteau, c'est la parole. Cette parole que nous connaissons et que nous aimons et que nous voulons voir mettre en pratique, chez les autres, bien sûr. Chez nous, oui. Mais on espère que ce soit chez les autres, d'abord. Parce qu'on est toujours prêt à regarder ce que font les autres plutôt que ce que nous pensons. Et dans la suite de ce chapitre, on va lire les versets 3 à 11, s'il vous plaît. Donc ici, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous preniez à l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Action de grâce et prière. Ici, on peut dire qu'il y a deux thèmes, deux choses qui ressortent. Il y a l'action de grâce. On se réjouit de ce qui se passe et on prie. C'est un peu notre vie, action de grâce et prière. Joie dans ce que Dieu fait et prière parce qu'on voudrait qu'il y ait encore d'autres choses qui viennent et des choses bien plus fortes et bien plus belles que celles que nous voyons aujourd'hui. Action de grâce pour ce que Dieu fait en nous. Et prier pour que cela dure. Que Dieu, jour après jour, manifeste sa puissance et son amour dans chacune de nos vies. Alors, il peut y avoir des coups, oui. Mais parfois, vous savez, les coups sont nécessaires. Parfois, notre nuque, elle est bien raide. Il y a besoin qu'on se courbe. Et qu'on comprenne que Dieu est le maître, le Tout-Puissant. Là, une sœur priait, et dans ce qu'elle disait, je crois qu'il y avait là aussi cette reconnaissance de que on est rien et que Dieu est tout. Dieu est tout. Et il faut que cela dure. Notre vie chrétienne, elle aille de l'avant, qu'elle progresse, qu'on soit en croissance pour aller plus loin, pour atteindre le but, comme disait Paul. Je cours, je ne regarde pas en arrière, mais je cours pour atteindre le but. Je dirais, on veut atteindre une certaine maturité manifestée et grandissante dans nos vies. Maturité. Alors, qu'est-ce que nous avons découvert de ce que Dieu a fait ? Tout à l'heure, lorsque Daniel présentait la Sainte Cène, il a parlé qu'il y a une chose qui est importante, et puis dans les chants aussi que nous avons chantés, nous sommes sauvés par grâce, à travers le sacrifice de Jésus. Ce n'est pas nos mérites. C'est simplement par la grâce manifestée à la croix. Et je lisais dans une traduction, la traduction du sommaire, un verset. C'est dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 20. Je vous la lis, hein, parce que vous l'aurez. Ce n'est pas tout à fait la même chose que ce que nous disons dans le sommaire, dans la, Bible second, il dit ceci. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Et ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous savez, beaucoup dans le monde contestent la divinité de Jésus. On veut bien à Dieu, mais Jésus, Dieu, non. Le Saint-Esprit, non. On voit d'énormes contestations dans le monde aujourd'hui, à ce niveau-là, même chez les chrétiens. C'est un comble. Qui dit chrétien, dit disciple de Jésus-Christ. Mais on entend des choses qui disent, non, non, Jésus, c'est un homme, un prophète, il avait une puissance, mais pas Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. On parle du mouvement des témoins de Jéhovah, hein. Jéhovah, Dieu seul. Jésus, si on pouvait le gommer, ce serait bien. Et la puissance du Saint-Esprit, alors là, on voit que même dans certaines églises que nous connaissons, où le Saint-Esprit, on le met bien de côté, hein. Il n'y a que la parole. On oublie l'action du Saint-Esprit. Or, ils sont les trois. Et Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est ce que nous découvrons. C'est l'essentiel. Mais je crois qu'on doit aller plus loin. On doit passer finalement de l'état de nouveau-né à l'état d'adulte. Atteindre une stature finalement qui est remarquable par les autres, pas par nous, mais par les autres. Il y a un texte qui va dans le livre de Zacharie, on va pouvoir le lire. Zacharie, c'est l'avant-dernier livre, je crois, de l'Ancien Testament. Comme ça, vous avez le repère tout de suite. Vous avez Matthieu, vous avez Malachie et Zacharie. C'est un texte, je n'ai parlé il n'y a pas longtemps encore déjà, à quelques-uns, de ce passage qui m'a quand même frappé. Dans le chapitre 8, le verset 23. C'est le dernier verset de ce chapitre-là, dans Zacharie, chapitre 8, verset 23. Réfléchissez à ce verset. Ainsi donc parle l'Éternel des armées. Ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement, et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. 10 hommes saisiront le pan. Je dirais ici, le juif, je dirais le croyant, celui qui croit en Dieu, en son Créateur, à celui qui a changé leur vie. Plutôt que simplement l'Israël. Hein. Dire, en somme, tout homme qui a vraiment, qui vit de Dieu, qui dépend de Dieu, qui aime Dieu, il y aura à la fin des temps des hommes qui viendront et prendront son vêtement et diront, nous irons avec toi, parce que nous savons que Dieu est avec vous, ou avec toi. Rendez-vous compte du témoignage que nous aurons apporté, nous devons porter. Que lorsque nous vivons dans le monde aujourd'hui et que nous vivons notre foi, des hommes puissent venir nous interpeller et dire « Nous allons aller avec toi parce que on sait que Dieu est avec toi. » C'est quelque chose qui est fort quand même. Hein. Plutôt que d'entendre la moquerie de « Ah oui, ton Dieu, tu en parles, mais regarde comment tu vis. Hein. » Je me rappelle toujours qu'avant ma conversion, j'ai connu pendant 10 ans un homme qui disait qu'il connaissait Jésus-Christ. « Ah oui, ah, il le connaissait de nom. » Mais dans la réalité de sa vie, il démontrait tout le contraire. Alors, je ne veux pas dire basta, mais presque. Hein. Pourquoi le suivre, lui, s'il parle de Dieu et puis qu'il vit comme ça? C'est lorsque j'ai rencontré des hommes qui vivaient vraiment que j'ai suivi et que je me suis donné à Dieu. Parce que j'ai vu les exemples de personnes qui aimaient Dieu et qui voulaient le servir de tout leur cœur, là où ils étaient placés, sans crainte et sans peur. Sans se cacher. Une anecdote, quelqu'un qui disait à un couple chrétien, dit, le mari allait à un séminaire quelque part, dans son travail, et sa femme lui dit, tu as bien pris ta Bible, chérie. Oui, je l'ai mis dans ma valise. Et il part. Et puis, une semaine après, à la fin du... Il revient. Alors, ça s'est bien passé, moi, chérie? Oh, formidable. Personne n'a su que j'étais chrétien. On ne s'attend pas à ça, hein? La Bible est restée dans la valise. À l'hôtel. Sagement. Complètement écrasé, ne disant rien, n'ayant peur de tout. C'est ça le chrétien. Nous avons à avoir de l'audace de la foi. Nous sommes ceux qui sommes des témoins en Jésus-Christ. Et parfois même, lorsqu'on se convertit, c'est là que les bébés sont un peu violents. Hein. Celles qui viennent se convertir, je ne sais pas si la famille arrive à les retenir. Hein. Parce qu'ils vont parler à tout bout de champ, partout, à droite, à gauche. Ils vont prendre des coups, oui. Hein. Bon, et au lieu du calme un peu. Mais d'un côté, c'est bien qu'ils témoignent. Mais seulement, il faut qu'ils grandissent. Parce que témoigner, c'est vrai, mais sans qu'on ait des bases solides pour se défendre devant l'adversaire, il paraît que Dieu peut nous défendre, bien sûr, mais on a quand même à avoir un comportement de vainqueur. Combien d'entre nous ont témoigné et puis se sont fait jeter, hein? Continuez. Tant pis si vous êtes jetés. Mais il faut continuer à persévérer dans ce sens. Paul demande à Dieu pour les Philippiens que leur amour augmente de plus en plus et que leur engagement spirituel soit de plus en plus grand. Connaissance et intelligence. Dans nos assemblées, en général, on insiste d'abord sur la conversion. Hein? Convertissez-vous, puis soyez baptisés, bien sûr. Puis, souvent, il y a un blanc. On oublie. Et je voudrais vous encourager, frères et sœurs, lorsqu'il y a de l'enseignement dans l'Église, à y participer. Ah ! Est-ce que vous savez tout ? C'est vrai que Internet, maintenant, c'est formidable. On peut cliquer sur n'importe quoi et on a tout de suite, sans rien apprendre. Ah ! Je me dis, à mon époque, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas de calculette. Moi, j'ai connu la calculette en 1976, je crois. Oui, ça fait 40 ans bientôt. Avant, on faisait tout calcul à la main. Quand j'étais prof, il y avait l'étape de logarithme. On le faisait à la main. Toutes les épreuves se faisaient à la main. On n'avait pas un moyen de calcul autre que notre tête et notre doigt. Aujourd'hui, les doigts servent beaucoup. Mais la tête... On assimile toutes sortes de choses sans vérifier. Les chrétiens de Béret, quand on leur parlait, hein, ils vérifiaient dans l'écriture que ce qui était dit était vrai. Aujourd'hui, on avale tout. Et on a une tête de plus en plus grosse. Attention, si la tête est trop lourde, vous ne pouvez plus marcher. Dieu veut vous donner... d'avoir une tête bien faite et bien pleine, et non pas quelque chose qui est gonflé de n'importe quoi. C'est vrai qu'à notre époque, à mon époque, on n'enseignait pas de la même façon peut-être, et puis on assimilait bien plus de choses qu'on assimile aujourd'hui. J'ai l'impression. Je pense toujours que les gens qui ont un certificat d'études, à mon époque, c'était des gens qui étaient lettrés. Hein. J'ai mon diplôme de certificat d'études dans mon bureau. C'est un beau cadre, en couleur, avec la signature de l'inspecteur d'académie. Je l'ai, c'est mon premier diplôme. Mais il a fallu avoir des cours particuliers, pas particuliers, mais des cours à part pour pouvoir de nouveau rentrer, j'étais en quatrième à cette époque-là, pour rentrer dans l'enseignement primaire, des bases de l'enseignement primaire. Orthographe, bon, le calcul, ça allait. L'histoire, j'aimais bien. J'aurais peut-être aimé un jour faire prof d'histoire géo, mais J'ai fait des maths. Bon. Ça mène à tout. On apprenait les choses. On grandissait dans la connaissance, dans la culture. L'autre jour, il y avait une émission à la télévision sur les jeunes étrangers qui viennent en France pour étudier. Ce qui les surprend, c'est la culture générale en France. Il y avait une jeune femme, je crois, qui était, je ne sais pas si elle était à Polytechnique, une Chinoise, qui a dit, mais en France, c'est vrai que les matières que pointues chez nous, alors vous êtes nuls, quoi. Bon, d'accord, mais le reste, je n'ai plus envie de retourner dans mon pays. Parce qu'ici, il y a de la culture. Les gens connaissent les choses. Et je pense à Maurice, c'est vrai, l'instituteur, c'est formidable, hein, le métier d'instituteur. Je me rappelle toujours de certains instituts, moi, hein, que je connais. Mais c'était vraiment, là, c'était l'amour du métier et le désir profond de faire apprendre les jeunes. Alors, il faut qu'on grandisse. Après, c'est la partie, là. Paul demande donc que nous grandissions, nous croissions en amour, en connaissance et intelligence. Alors, il y a un pasteur Ortiz, il y a de nombreuses années, qui a écrit le livre qui s'appelle « Disciple », qui était un Argentin, qui disait ceci. Vous ne grandissez pas. Voyons, même si vous passez de 200 à 600, vous ne grandissez pas, vous grossissez. Entre l'obésité et la croissance verticale, il y a besoin d'équilibre. Devant chez nous, on a un beau chêne. Quand on est venu habiter ensemble il y a 30 ans, Marie-Thérèse et moi, il faisait 1,50 m. On l'a laissé pousser. Aujourd'hui, il fait 25 mètres. Monté droit. Il ne s'est pas élargi. On aurait pu le tailler en haut, le couper, puis il aurait élargi. Mais il a poussé. Croissance. Nous avons besoin de grandir, frères et sœurs. Et il disait, lui aussi, donc, au lieu d'avoir 200 bébés, vous en avez 600. Et une nurserie de ce genre, c'est du travail, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'enseignement. Quand il y a de l'enseignement dans les livres, mais venez! Parce que c'est bien les échanges oraux entre les uns et les autres. Plutôt que d'aller en solitaire, cliquer sur le mot, par exemple, miséricorde. Puis vous allez avoir la définition, vous allez avoir toute une série de messages sur la miséricorde. Mais est-ce que vous allez le partager avec un autre en face de vous, avec lequel vous pouvez parler de ce que, pour vous, la miséricorde de Dieu? Nous n'avons pas à grossir, nous avons à grandir. Parce que la croissance numérique n'est pas toujours liée à la croissance individuelle et à la croissance spirituelle véritable. Bon, les deux vont ensemble, oui. Mais n'oubliez pas que lorsqu'il y a un enseignement qui est donné dans l'Église, quand il y a des sujets qui sont abordés, et venez ! Moi, je vous invite à venir. Ou vous avez peur ? Ne pas être à la hauteur ? C'est très bien. On n'est pas à la hauteur. Moi, je sais que j'ai encore à apprendre. Toutes ces années que j'ai pu passer dans l'Église, et tout ce que j'ai pu entendre et voir, vous voyez, j'ai mon cahier, mes notes. Il permet de retrouver des fois les pensées et j'ai même les messages que j'ai apportés il y a plus de 25 ans. Je les ai encore. Je suis un conservateur. Conservateur dans un sens, mais assez moderne quand même. Hein. Mais je conserve mes papiers. Pour ça, quand on fait du tri à la maison, c'est difficile de faire le tri. Parce qu'il y a toujours des choses importantes qu'on peut garder. Croissez. Paul le dit. Celui qui est le chef, le Christ, dans la grâce de notre Seigneur Jésus, dans la connaissance de Dieu. Désirez comme des nouveau-nés le lait spirituel de la parole afin que vous croissiez par lui. L'auteur des Hébreux rappelle quelque chose aussi. Vous étiez des maîtres, parlons aux Hébreux. Ils ont besoin de recevoir aussi même les rudiments de le béaba finalement de la de ce qu'est la foi et l'engagement spirituel. Ils ont besoin d'une nourriture solide. Nous avons tous besoin d'une nourriture solide. Sommes-nous restés toujours à parler de notre conversion, de ce que nous avons vécu il y a 40 ans, oh là, ce jour-là, c'était formidable, et puis depuis, rien. Non, Dieu veut que nous soyons toujours ceux qui font des expériences avec le Seigneur, qui peuvent le partager avec d'autres. Dieu s'est occupé de notre passé, hein, d'accord ? Il s'est occupé de votre passé ? J'entends pas beaucoup d'amen, bon. Il s'occupe de notre vie aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, les choses se sont passées, parce que Dieu l'a voulu. Pour notre édification à tous. Et il prépare l'avenir. Vous savez, comme dit le psalmiste, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Ce n'est pas un projecteur LED qui va jusqu'à 400 mètres. Pour éclairer très loin, comme ça on voit tous les dangers. Non, c'est aux pieds. Le Seigneur nous fait avancer pas à pas. Mais la marche permet d'augmenter notre force. Marie-Thérèse et moi, on marche. Depuis son opération de la hanche, il faut qu'elle marche. Donc je suis obligé de marcher. Je plaisante. Mais d'accompagner, c'est bien quand même de marcher à deux plutôt que de marcher tout seul. Marie, qu'on peut aussi marcher avec Dieu. Vous vous rappelez de cette histoire qui se passe sur une plage? Bon, ça a passé à travers le monde, je crois, ça a dû être au Brésil au début, je suppose, je crois. Il y avait des empreintes sur le sable, 4 empreintes, 2 personnes marchant. On marchait côte à côte, puis brusquement, il n'y a plus qu'une, que deux pieds. Alors, on s'affole, on dit, mais... « Seigneur, où tu es? Tu n'es pas à côté de moi? Tu n'es plus là ?» Et lui, il dit, « C'est moi qui te porte. C'est moi qui te porte. » Nous ne le verrons pas dans notre vie. Quand il y a les difficultés, c'est lui qui nous porte. C'est lui, et on avance en même temps. On n'est pas en train de stagner, en train de bouder assis sur notre chaise, en disant, « Tu es où, toi ?» Il nous porte et nous conduit plus loin. Et on a besoin, frères et sœurs, de vivre des expériences avec Dieu. On a expérimenté son amour et sa grandeur. Dieu est présent dans nos vies. On est sauvés par grâce, oui, par la foi, gratuitement, pour que nous pratiquions les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous y entrions. Expérimentons la main de Dieu. En somme, expérimenter, c'est rechercher toujours sa présence. Discerner son action. Discerner ce qu'il fait dans nos vies. La manière dont il agit. Repérer ce qui vient de lui et ce qui n'est pas de lui. On a besoin de cette dimension. On a à discerner les choses de Dieu. Mais aussi à discerner les choses qui ne sont pas de Dieu. Et les manipulations dont on peut être finalement la victime. Je veux dire, la vie chrétienne normale, Wachmann en parle long en large, est une communion de tous les instants avec lui. Et une soumission à sa volonté. Jésus a donné 2 paraboles importantes, la parabole des talents et la parabole des mines. L'une dans l'évangile de Matthieu, puis l'autre dans l'évangile de Luc, Matthieu 25, et puis Luc 19, vous pouvez le retrouver si vous voulez. On ne va pas les lire, elles sont trop longues. Il y a ceux qui ont reçu un certain nombre de talents et qui les font fructifier. Il y a celui qui n'en a reçu qu'un et qui l'enterre, comme la mine. Mais je me pose la question, est-ce qu'il faut avoir beaucoup pour pouvoir travailler pour Dieu ? Est-ce qu'il faut avoir des dons extraordinaires pour pouvoir être utilisé par Dieu? Ou est-ce qu'il faut simplement un talent, un petit talent qu'on a et qui est utile pour l'œuvre de Dieu? On a tendance, nous les hommes, à voir toujours les plus grandes choses. À voir les choses magnifiques qui peuvent se passer. Je suis connu de tous, de toutes les autorités. Je suis, en somme, un ministère international. Comme certains ont mis un ministère stellaire. Hein, bon, là, ça va loin. Ou universel, l'univers. Oh là là. Et je suis tout seul dans mon petit coin ici pour pouvoir parler du Seigneur. Un jour, un pasteur de renom décède. Ah. Et puis le même jour aussi, une vieille dame, une vieille sœur dans l'église dont il est le membre, décède également. Bon, ne croyez pas que c'est de la vérité, vérité, vérité. C'est simplement une histoire. Hein. Ils arrivent tous les deux au paradis, au ciel. Et puis là, il y a une distribution de couronnes. Alors, il voit la vieille dame, il recule, il dit, mais c'est pas possible. Elle est une simple petite membre de l'église où je suis le pasteur, et puis elle a une couronne de cette taille. Ben oui, il dit, ben oui, normal. Ah bon ? Tiens, je te donne la tienne. Toute petite couronne. Toute petite, petite, petite. Mais il dit, mais, Seigneur, j'ai travaillé partout dans le monde, je suis allé de continent en continent, de ville en ville, des millions de personnes m'ont entendu, et j'ai, en somme, amené à l'Évangile, à la connaissance de Dieu, des millions de personnes. Oui, peut-être. Mais si cette femme n'avait pas prié pour toi, tu ne serais pas là où tu es. Ah ! Ce n'est pas toujours celui qui se montre et qui fait des grandes choses qui sont finalement ce que Dieu veut honorer à tous égards, mais aussi nous les petites, les petits, ceux qui prient, ceux qui intercèdent, ceux qui sont là pour apporter finalement la foi pour que l'Église avance. Ils croient à ce que Dieu va faire. Ils ont eu des révélations et ils vont prier dans ce sens, sans avoir besoin de le proclamer à droite et à gauche. Mais à travers ce qu'ils disent, à travers la manière dont ils vivent, l'Évangile va progresser. Ils sont grands aux yeux de Dieu. Ce n'est pas toujours les qualités intellectuelles ou autres qui sont importantes, c'est la foi manifestée. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes de foi, frères et sœurs, afin que l'Église grandisse. Je disais, et je redis aujourd'hui encore, que si vous parlez à une personne de l'Évangile et que vous y tenez même à cette personne pendant toute l'année, et vous lui montrez par votre vie qui est Christ, et si elle se convertit, l'Église double. Imaginez. Vous parlez à une personne. Vous lui parlez de l'Évangile, vous l'accompagnez, vous l'entourez, vous priez pour elle, vous l'encouragez, vous, hein, vous vous pouvez la féliciter pour ce qu'elle vit. Et cette personne vient à Christ. Si chacun fait cela, l'Église double. On manque souvent de courage. Et c'est là aussi qu'on manifeste que nous grandissions en Jésus-Christ. Expérimentons et persévérons dans ce que Dieu veut que nous donnions. Vous savez, je dis souvent, il y a une image à la Pentecôte. Peut-être vous faire sourire un peu. La pente, la côte, la pente, la côte, souvent la vie chrétienne est comme ça. Quand on parle de la nouvelle Pentecôte, attention. Il faut que nous soyons ceux qui montent, qui croissent, avec une pente qui n'est pas besoin d'avoir 10%, peut-être même pas 1%, peut-être 0,5%, mais qu'on continue le chemin, le chemin, le chemin, le chemin, le chemin. savoir les hauts et les bas, les hauts et les bas. Dieu veut nous donner d'être puissamment renouvelés dans nos difficultés. La dépression ne devrait pas exister chez les chrétiens. Bon, il y a un exemple dans l'Ancien Testament, c'est Élie. Hein. Élie a déprimé sévèrement. Pourtant, il avait fait de grandes choses, des choses magnifiques. Mais une seule personne, une femme, Jézabel, qui lui a fait peur, il a pris la fuite. Il était dans le complet désarroi. L'homme de Dieu. Mais Dieu l'a relevé. Merci Seigneur de le relever. Mais ne soyons pas comme ça. Hein? Dépouillons-nous du vieil homme. Dépouillons-nous du vieil homme. Ne laissons pas le vieil homme dominer sur nous. Ne laissons pas celui que nous avons dû abandonner et qui revient à la charge. Paul disait aux Colossiens, « Dépouillez-vous du vieil homme et de son œuvre, en ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, dans Dieu lui-même, Jésus-Christ. » Nous avons à nous renouveler, à renouveler chaque jour, et chaque jour, nous sommes en marche. Dans le psaume 85, je crois, on va le retrouver. Non, 85, 84, pardon. On peut lire quelques versets pour conclure. À partir du verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Près de l'oreille, Dieu de Jacob. Ici, nos forces augmentent avec la marche. C'est vrai aussi que, quand on prend de l'âge, nos forces physiques diminuent. Ça, c'est sûr. On s'en rend bien compte. Je ne vais pas faire un 100 mètres en 13 secondes. Hein, bon, ça m'est arrivé. Mais maintenant, ce sera plutôt du 25 ou du 30, même si j'arrive jusqu'au bout. Mais ma force spirituelle augmente. Je ne suis pas en train de me désoler de ce que Dieu me laisse de côté. Parce que je suis plus âgé et puis que maintenant il est temps de, hein, allez, de se reposer. Non. Dieu me permet encore de vivre des choses avec lui et ça je me réjouis. On voit depuis toutes les années tout comment Dieu agit et œuvre dans les cœurs et dans les vies. Et je me réjouis de voir dans vos vies, dans les vies de ce que je connais bien, d'autres que je connais moins bien, où le Seigneur a agi d'une façon visible, puissante. Ça, c'est pour moi une grande source de joie. Mais quand je vois que l'adversaire est en train de détruire une personne et la mettre dans une position de critique, d'amertume, de colère, etc., je me désole. On doit continuer à avancer, même s'il y a des obstacles. Même s'il y a des obstacles devant nous. Alors, soyez renouvelés, frères et sœurs. Soyez encouragés à persévérer sur le chemin que Dieu met devant vous. Que peut-être pas vous avez reçu les 5 talents ou les 5 mines, vous n'avez qu'une mine et un talent, mais mettez-le, mettez-vous à l'ouvrage pour faire fructifier ce que Dieu vous a donné. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ce matin, pour ce que tu veux mettre dans nos cœurs à chacun. C'est vrai que nous avons à nous examiner, à regarder où nous en sommes, mais nous voulons voir ton œuvre dans nos cœurs. Une œuvre que tu accomplis, toi, Seigneur. Pas nous, pas nos mérites, mais ton œuvre. Tu es celui qui nous aime et qui veut le meilleur pour nous. Merci de nous combler, Seigneur, de nous réjouir, de nous encourager, et que nous puissions quitter ce lieu ce matin avec la joie dans le cœur, sachant que tu es là à nos côtés, que tu nous comprends, que tu nous aimes et que tu veux nous faire aller plus loin. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.